Voilà, c'est l'heure, nous allons commencer. Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, pour cette 74e soirée d'éthique publique, la première de cette nouvelle année. Et donc, permettez-moi de vous présenter mes vœux et ceux du Centre Sèvres pour 2017. Chacun est toujours sensible à quelque chose de particulier pour les vœux. Bien sûr, des vœux de paix et de confiance, ont cette année encore tout leur sens pour avancer au long des jours face au vent mauvais qui souffle de tous côtés. Mais plus encore, je voudrais nous souhaiter d'abord la grâce qui libère du pessimisme, cette sorte d'amertume que le diable nous propose chaque jour, comme le dit le pape François avec une de ses formules qui n'appartient qu'à lui. La grâce qui sait repérer et encourager ce qui évolue et bouge favorablement, si modeste cela soit-il, celle enfin de consentir à n'avoir pas tout de suite toutes les réponses clés en main, qui rassurent faussement, mais accepter de demeurer un peu sans sécurité, à scruter le ciel et les cœurs pour trouver les réponses ensemble. Beaucoup de vœux donc. Chacun prendra ce qui lui plaît le plus. En tout cas, les soirées d'éthique publique et plus largement le Centre Sèvres veulent continuer à être au service de ces souhaits, vous qui êtes familier de ce lieu et vous aussi qui, dans une quinzaine de lieux en France, partagez en direct ou en retransmission ces soirées avec nous. Avant de parler du thème de notre soirée, je voudrais faire une petite page de publicité, ou bien une invitation, pour être plus exact, vous inviter à venir partager et découvrir un peu plus encore la vie du centre, d'une manière un peu différente que d'habitude, le vendredi 20 janvier prochain, entre 17h45, et c'est précis, et 21h. Ce seront les forums du Centre Sèvres. Les forums du Centre Sèvres où étudiants, enseignants, auditeurs sont invités à profiter d'un certain nombre de propositions, de forums sur des thèmes variés qui diront un peu de l'esprit qui règne dans cette maison où, je le crois, l'intelligence et la convivialité font bon ménage et disent quelque chose de ce que doit être l'identité chrétienne. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui est proposé, mais vous trouverez à la sortie des tracts à votre disposition. N'hésitez pas à les prendre. Vous pourrez aussi vous renseigner sur le site du Centre Sèvres. Alors, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous signale par exemple que ce soir-là, la bibliothèque du Centre, exceptionnellement, nous montrera quelques-uns de ses trésors les plus précieux qu'elle ne montre pas tous les jours, et vous serez peut-être étonné de ce que l'on vous présentera. Et puis ce sera aussi l'occasion de découvrir les noms des quatre grandes figures intellectuelles jésuites du XXe siècle qui seront données aux grandes salles du Centre Sèvres, comme cet auditorium dans lequel nous sommes ce soir. Le mois prochain, cet auditorium aura un nom. Et la soirée se terminera, pour ceux qui le veulent, par un buffet solidaire pour soutenir une école de réfugiés syriens au Liban, dirigée par le JRS, le service jésuite des réfugiés. Alors j'en arrête là pour cette page d'autopromotion, mais je serai vous, je ne manquerai pas ce moment, et j'y entraînerai l'une ou l'autre de vos connaissances pour lui faire découvrir ce lieu que vous appréciez, vendredi 20 janvier à partir de 17h45. Revenons à nos soirées d'éthique. Au mois de décembre dernier, nous nous sommes intéressés à ce pays dont on parle beaucoup, et encore tragiquement ces jours-ci, la Turquie. Où va la Turquie? Ce fut une soirée passionnante avec nos invités, Bayram Balchi et Aurélien Denisot. Le mois prochain, notre prochaine rencontre n'aura pas lieu le premier mardi du mois, comme d'habitude, car cela tombe durant les vacances du centre, mais le mardi 14 février. Mardi 14 février. Nous continuerons à évoquer des sujets importants de la vie de notre société française dans la perspective des prochaines élections. Et ce soir-là, nous parlerons de l'état de la justice dans notre pays. comment fonctionne notre justice, avec bien sûr des spécialistes bien placés pour parler des évolutions, des enjeux, des difficultés aussi, mardi 14 février à 19h15. Ce soir, nous restons sur des questions internationales, mais nous voudrions les situer précisément dans la perspective des enjeux électoraux à venir. En ce début 2017, la scène internationale, nous le savons, nous le voyons, est pleine d'incertitudes et connaît des évolutions importantes. Je cite en vrac l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, le rôle croissant de la Turquie, de la Russie, pardon, la crise du projet européen, les menaces terroristes persistantes, la faiblesse du système onusien qui vient d'accueillir son nouveau secrétaire général, le Portugais Antonio Guterres, la difficile mise en œuvre des normes environnementales, la crise des réfugiés, on pourrait évidemment continuer la liste. Dans ce contexte, eh bien, nous voudrions y voir un peu plus clair sur les enjeux, les défis internationaux qui attendent la France, sur les réponses qu'elle peut apporter, sur les cartes qu'elle peut jouer, la France et l'Europe, la France dans l'Europe, car il est impossible d'isoler complètement ces deux réalités. Alors pour nous aider à y voir plus clair, eh bien, je suis très heureux d'accueillir nos invités. Monsieur Pascal Boniface, qu'on ne présente plus et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, docteur en droit international public, universitaire. Vous avez fondé en 1990 l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, l'un des principaux centres français de recherche dans le domaine, centre dont vous êtes le directeur. Depuis 1985, je crois, vous publiez annuellement l'année stratégique qui fait autorité et vous avez lancé en 1991 la revue internationale et stratégique trimestrielle dans laquelle interviennent de nombreux experts et hommes politiques internationaux. Vous avez notamment été membre du Conseil consultatif pour les questions de désarmement à l'ONU de 2001 à 2005 et administrateur à l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, de 1998 à 2004. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur les questions internationales, alors je ne vais pas les citer tous, je ne ferai que citer le tout dernier, la géopolitique, 43 fiches thématiques et documentées pour comprendre l'actualité, aux éditions Erol, qui sort ce mois-ci. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Et puis, je crois qu'il y a un autre livre en préparation qui est tout à fait dans l'axe de notre soirée et qui va s'intituler « Je t'aimais bien, tu sais ». Alors, c'est pas ce que vous pensez, c'est la relation entre la France et le monde. Là aussi, c'est bien dans la suite et la ligne de notre soirée. Il sera publié aux éditions Max Milo dans quelques semaines, je crois. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec nous également M. Douglas Herbert, qui n'est pas complètement inconnu pour les fidèles de ces soirées. Je sais qu'il y en a dans la salle, puisque vous nous aviez fait l'amitié de venir il y a deux ans et demi, sur le thème « La France a-t-elle encore de l'influence dans le monde ?». Journaliste américain, ancien de l'Université d'Harvard, vous connaissez pourtant très bien la France. Et nous pouvons vous retrouver régulièrement sur France 24, la chaîne de télévision d'information internationale française, qui émet en continu en trois langues, je crois, français, anglais et arabe. Vous y travaillez depuis 2006 et vous y êtes actuellement chroniqueur international. À ce titre, évidemment, vous suivez de près tous les événements politiques du monde, tout particulièrement l'actualité politique des États-Unis. Il y a donc de quoi faire et vous serez d'ailleurs dans quelques jours à Washington pour l'investiture du président Donald Trump. Il faut qu'on s'habitue à dire cela avec président Donald Trump. Vous avez travaillé plusieurs années pour CNN à New York et à Londres notamment, mais votre intérêt et votre goût pour le monde vous ont conduit également en Russie, à Moscou pour The New York Times, dans les pays baltes également, une région du monde que vous connaissez bien. Vous intervenez également à l'école de journalisme de Sciences Po. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir, nous partager votre regard sur les enjeux internationaux qui attendent la France Et c'est par vous que nous allons commencer notre soirée. Sans plus attendre, je vous laisse la parole.
Je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais bien vous remercier d'être venu ce soir, parce que oui, je sais que ça fait un peu froid. Alors, très courageux. Je veux juste faire une petite précision, ou juste pour dire que oui, je suis chroniqueur international. En même temps, je suis plus précisément chroniqueur éditorialiste. Et c'est une distinction, une différence que je veux signaler, parce qu'en fait, un éditorialiste, chroniqueur éditorialiste, j'ai le droit de donner une opinion, mon point de vue. Et je passe la plupart de mon temps en France 24 à expliquer à mes spectateurs que oui, j'ai le droit de donner une opinion. Alors, et surtout aujourd'hui, c'est très, je trouve que c'est extrêmement important de le préciser aujourd'hui, étant donné la grande polémique entre le fake news, le soi-disant, le non-respect des faits. Ce que je dis, c'est pas que c'est pas factuel, mais je prends le factuel et j'avoue, j'assume, je donne un point de vue avec le factuel. Alors, il y a une distinction. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire ce soir, bien sûr, cela dit que il s'agit de mon point de vue. Je n'exprime pas le point de vue de France 24, de ma chaîne. Et c'est en général ce que je partage à la chaîne, à l'antenne. Voilà, tout ce qui me vient à l'esprit, parfois spontanément. Voilà. Je voudrais juste commencer parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un titre. Je vais faire un peu dans l'optique journaliste ce soir. Et je veux aussi parler un peu de... je vais parler dans l'optique de la présidentielle américaine, pour ensuite revenir en Europe et en France. Mais il y a pas longtemps un titre dans le magazine en ligne internet Slate.fr. Ils ont posé la question, 2016 est-elle la pire année dans l'histoire du monde? Et en fait, le titre, oui, c'est assez choquant, c'est assez alarmant. Il y a beaucoup de gens... Vous-même, je pense, peut-être vous avez entendu parler ou vous avez eu des conversations. Oui, la pire année en 2016, c'est bien, c'est bon débarras en 2016. Enfin, en 2017, peut-être ça va s'améliorer. Et en fait, Slate s'est posé la question. Ils ont trouvé en fait plein d'autres années qui sont bien pires que 2016. A commencé par 72 000 avant l'ère moderne, quand il y avait une grande éruption volcanique qui a failli abolir, éliminer l'espèce humaine. Ça, c'était une mauvaise année. Il y a eu aussi 1348, c'était l'arrivée de la peste en Europe, avec la perte de la moitié de la population européenne, 1 sur 2 personnes. Voilà, c'était aussi une mauvaise année, 1348. Et 1876 aux États-Unis, en tant qu'Américain, je veux dire que ça, c'était aussi cité par Slate, mais j'étais complètement d'accord parce que on parle toujours aux États-Unis des années de la guerre de sécession aux États-Unis et la perte de vie pendant la guerre de sécession dans les années 1860, mais 1876 était très importante aussi parce que c'était l'année où on a mis fin à la période de la reconstruction aux États-Unis, c'est-à-dire la période où on a commencé à diviser entre à devenir une fois de plus raciste totalement, à diviser entre les blancs et les noirs avec beaucoup de conséquences pour les relations raciales aux États-Unis et entre les noirs et les blancs qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et qui sont aujourd'hui vraiment comme une blessure aux États-Unis. Alors moi je dirais aussi 1876. Bon, il y a plein d'autres années, mais ce que je veux dire c'est juste pour remettre dans un contexte. Quand on parle de 2016, oui, c'était une très mauvaise année sur plusieurs plans, et surtout pour moi. Il y a François Hollande qui a dit récemment, si vous avez entendu ses propos, ses vœux du Nouvel An, il y a une ligne qui m'a marqué l'esprit. Il avait dit qu'il y a des périodes dans l'histoire où tout peut basculer. Et peut-être vous vous rappelez de cette ligne-là. Et je me suis dit, c'est vrai que tout peut basculer, et je me suis dit après que oui, et ça peut rebasculer, et puis avoir des cycles, c'est cyclique. Et en fait, pour moi, mon année a basculé, je dirais, la nuit du 8 novembre. C'était la nuit de l'élection de Donald Trump. Je me trouvais cette nuit-là sur le toit un des plus grands immeubles à Washington. C'est l'immeuble du siège du syndicat AFL-CIO aux États-Unis. Et en fait, c'est de là qu'on faisait notre couverture en direct de l'élection, la présidentielle américaine. Et toute la journée s'est bien passée parce que moi et mon équipe de France 24, on était vraiment comme des millions d'autres journalistes convaincus que ça allait se terminer bien. Voilà, je donne mon opinion bien dans le sens que Trump n'allait pas gagner. Et il y a un moment vers 22h30 aux États-Unis où le site du New York Times qui donnait ses pronostics, la probabilité de victoire de Trump contre Clinton, tout d'un coup ça a basculé. Jusqu'à 22h, sur le site du New York Times, la probabilité d'une victoire de Donald Trump était en dessous de 30%. C'était aux alentours de 27-28%. Et tout d'un coup, vraiment, quasiment d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, c'était 95%, 96% Donald Trump. Et on s'est demandé qu'est-ce qui s'était passé dans ces quelques minutes. Bon, on connaît la fin de l'histoire, que Donald Trump a gagné cette nuit-là, et moi je me suis rendu compte que pour moi c'était une des dernières prédictions où j'ai eu tort. Pardon. Parce que moi, à la fin de l'année 2015, j'ai fait plusieurs pronostics, plusieurs prédictions pour France 24. Parmi eux, c'était qu'il n'y aurait jamais du Brexit. C'est complètement impossible, du Brexit. Les Anglais, en fin de compte, voilà, ils vont être raisonnables. Ils vont arriver aux urnes et ils vont se dire, mais non, ça ne se fait pas, on ne peut pas. On ne va pas voter Brexit quand même. C'est se tirer une balle dans le pied. Alors j'ai dit, premièrement, il n'y aura pas de Brexit. J'ai dit qu'on va trouver une résolution à la guerre en Syrie et Poutine va se retirer et cette intervention ne va pas durer. Et j'ai dit non seulement que Donald Trump ne va pas être président des États-Unis, c'était fin 2015, mais également qu'il ne va jamais avoir l'investiture de son propre parti républicain. Alors j'ai eu tort sur tous les fronts. Et ce n'est pas pour me démoraliser que je vous avoue ça. Ce n'est pas pas dans mon intérêt de vous dire que j'ai eu tort. Je suis chroniqueur éditorialiste. C'est juste pour vous donner une idée de vraiment l'imprévisibilité de l'année 2016 et l'idée que je vois l'année 2017 et les enjeux pour l'Europe et la France comme une année de l'imprévu encore. Parce que moi, je me suis posé la question quand on m'a donné le thème de cette soirée, les enjeux. En français, normalement, quand je pense au mot enjeu, j'associe ce mot à quelque chose d'assez neutre, les enjeux. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Ça veut dire quoi pour la France, pour l'Europe en 2017? Mais cette fois-ci, cette année, quand j'ai entendu ce mot, les enjeux internationaux pour la France et l'Europe, déjà, il y a un côté un peu sombre, sinistre, un peu pessimiste. Et je ne pouvais pas vraiment penser et réfléchir à cette question des enjeux pour l'Europe et la France à l'aune de ce qu'on vient de voir aux États-Unis avec Donald Trump, la victoire et l'investiture bientôt de Donald Trump, sans avoir un sens que les choses vont devenir encore bien plus pires ou s'empirer avant qu'ils ne s'améliorent. Ça veut dire que je ne vais pas être tout à fait pessimiste ce soir, mais je pense que dans le court terme, toutes les tendances sont vers quelque chose de mauvais. Les choses vont s'empirer. Et je pense que, et c'est à cause du fait que l'ordre mondial tel qu'on le connaissait jusqu'ici a vraiment basculé dans l'année 2016. Et à part Brexit, à part Donald Trump, en Europe, on a vu la montée en puissance, on en a tous parlé, il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai dit là, on a vu la montée en puissance des populismes, on a vu bien sûr l'extrême droite dans plusieurs pays, on a vu l'Union européenne divisée plus que jamais, on a vu des pays de l'Est de l'Europe, tels Pologne, l'Hongrie, qui ont l'air maintenant, en ce moment même, d'aller dans leur propre sens sur l'échiquier politique. Et vraiment le sens qu'une Europe, loin d'être unie, loin s'en faut, est en train de se fragmenter un peu plus. Et la question maintenant, c'est les enjeux après Trump, dans moins de 2 semaines, quand Trump va accéder au pouvoir, malheureusement, pour le mal ou le pire, ça va avoir énormément de conséquences pour l'Europe. Énormément de conséquences pour l'Europe, la politique des États-Unis, parce que même si les États-Unis ne sont plus la superpuissance qui peut dicter la loi au monde, même bien qu'on habite un monde maintenant où Poutine, comme on a vu, a su dicter sa loi cette année plus que jamais, il a pu imposer sa vision du monde, sa vision de la géopolitique, voilà, et redorer le blason de la Russie un peu partout à travers le monde. Et bien que il y a des gens qui disent que l'année 2016 n'était pas l'année de Donald Trump, comme l'a dit Time Magazine, mais plutôt l'année de Vladimir Poutine. Tout cela étant, je dirais quand même que l'investiture de Donald Trump, ça va vraiment augurer de très mauvaises choses pour tout le monde. Parce que déjà, ce que j'ai vu aux États-Unis, ce que je continue de voir, et ce qui est contagieux, je pense, pour l'Europe et pour la France, c'est le mot, et je ne sais pas si ça se traduit bien en français, mais normalization en anglais, normalisation. C'est-à-dire, c'est l'idée, au début, Trump a été élu, et on avait très peur. Et au fur et à mesure que le temps passe, on commence à peut-être s'habituer, c'est un peu trop fort, peut-être on commence à se faire à l'idée que bon, mais Trump, qu'on l'aime ou non, il va être le président, il faut s'y faire, il faut travailler avec, et peut-être ça ne va pas être si mauvais que ça. Et pour moi, le plus important, l'enjeu le plus important pour nous, et pour l'Europe, et les États-Unis, maintenant, c'est l'idée... On ne veut pas se faire à l'idée de Donald Trump. Il est vraiment dangereux. Et je pense que, comme l'a fait un exercice du New York Times il n'y a pas longtemps, ils ont demandé à leurs lecteurs, c'était en direct, ils ont fait un petit forum en direct, ils ont demandé de partager un mot pour l'année à venir, pour l'année 2017. Un mot pour nous aider à surmonter les difficultés à venir en 2017. Et les mots qui se répétaient tout le temps, c'était résilience, résistance, courage, vigilance, tolérance. Et c'est très important pour moi parce que je pense que à l'heure où l'Europe commence également à normaliser d'une certaine manière, l'idée, peut-être même dans plusieurs pays, de l'extrême droite, où l'extrême droite n'est pas perçue, n'est pas vue comme aussi extrême qu'avant. Et que déjà Marine Le Pen est devenue une politique moderne qui s'est réinventée et qui est perçue comme quelqu'un. Oui, elle est intelligente. Oui, elle peut faire un débat. Oui, elle est très polie en politique, elle sait bien mener le jeu en politique, mais cela dit, il ne faut pas oublier qu'elle reste aussi dangereuse, elle est toujours la même personne, et je pense que c'est à cette idée qu'il faudra résister. Il faudra résister, parce que je crains que pour la France, et je ne vais pas trop entrer dans le détail ici, mais je pense que ça va être une élection entre deux ailes de la droite. Je ne pense pas que la gauche va être impliquée dans cette élection, que c'est trop fragmenté, éclaté en ce moment. Mais c'est vraiment pour, je ne vais pas essayer de m'éterniser là-dedans, mais c'est l'idée de cette résistance. Suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, dans les semaines depuis le 9 novembre, il y a eu une forte hausse aux États-Unis en crimes de haine, de crimes violents parfois, de haine. Aux États-Unis, c'est-à-dire des crimes visant des musulmans, des crimes visant des noirs, des crimes visant des homosexuels, dans des transports en commun, sur la voie publique, des centaines et des centaines. Et même si Trump fait face à la caméra, il paraît à l'antenne, à la télé américaine, et il dit, je dis à ces gens, il faut arrêter. Il faut juste arrêter, c'est pas bon. Il dit ça, mais en même temps, c'est lui qui a mis le feu aux poutres. C'est lui qui a mis le feu aux poutres et ça va continuer parce que c'est ça qui est dangereux. Il est imprévisible, il ne prend pas vraiment au sérieux ses propos et ce qu'il dit, mais ses propos et ce qu'il dit a de très graves conséquences et pour les États-Unis et pour l'Europe. Et oui, et dans le court terme, comme j'ai dit, j'ai peur que ça ne va pas s'améliorer. Je pense que 2017, ça va être vraiment une année très difficile. Et j'espère que ça va être cyclique. J'espère que, à long terme, que oui, les êtres humains sont résilients, l'esprit humain, on peut surmonter toutes les difficultés, on peut apprendre de l'histoire, on peut apprendre les leçons de l'histoire, mais pour le court terme, je ne suis pas très optimiste. Je vais juste terminer avec deux choses. J'ai lu il n'y a pas longtemps le roman de Stefan Zweig, Le Monde d'hier. J'imagine qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont également, c'était Zweig qui a grandi dans l'Autriche, bien sûr, l'âge d'or d'Autriche au tournant du 20e siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'était vraiment pro-européen. C'était un des... Vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il aurait très mal aujourd'hui. Et il avait dit, il avait écrit dans le Monde hier, je l'ai noté parce que je l'avais trouvé très intéressant, cela reste une loi inéluctable de l'histoire. Elle défend précisément, elle défend précisément aux contemporains de reconnaître dès leur premier commencement les grands mouvements qui déterminent leur époque. C'est-à-dire, bien sûr, c'est-à-dire que maintenant on n'est qu'au début, je pense que nous-mêmes on ne reconnaît pas ce qui en vient de commencer, mais ce n'est pas bon. Je pense qu'il y a de pires à venir. J'ai dit une dernière chose. J'ai lu également, et j'espère que ça va sortir bientôt en français, un roman par un Américain qui s'appelle J.D. Vance, V-A-N-C-E. C'est ce qu'on appelle un hillbilly américain. Il a écrit un hillbilly, c'est quelqu'un c'est un plouc en fait, qui a grandi dans les montagnes de Kentucky. C'est la classe ouvrière blanche américaine. C'est les électeurs de Donald Trump. Et lui, à la différence, il a eu une grand-mère qui l'a élevé parce que sa mère était narcomane, elle ne pouvait pas l'élever. Il a eu la chance d'avoir une grand-mère très forte qui l'a élevé. Il a eu la chance d'accéder au Yale Law School, la meilleure école de droit aux États-Unis. Et il a écrit un roman qui s'appelle Hillbilly Elegy, Complaint de la race. De la classe blanche ouvrière américaine. Ce n'est pas une bonne traduction, mais voilà, c'est un roman sur sa culture, sur ses racines, sur sa famille, mais toute une sous-culture américaine. La sous-culture américaine des marginalisés, des laissés pour compte de la société américaine, ceux qui ont voté pour Trump. Il avait une idée très, 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 très intéressante. D'abord, que les stéréotypes de ces gens comme étant des rétrogrades, qui tiennent des propos racistes, qui sont des bons à rien, qui sont des nullissimes, qui sont des débiles, et par définition débiles parce qu'ils ont voté Trump, il faut arrêter là. On peut détester Trump, mais en même temps, on peut sympathiser, on peut essayer de ne pas trop les juger, mais essayer de les comprendre. Et moi, c'est un mot que j'ajouterais au mot du New York Times, résilience, tolérance, résistance, compréhension. Je pense qu'il faut essayer que, aux États-Unis et en Europe, parce qu'il y a la même haine aux États-Unis entre ces gens-là, les gens dont a écrit J.D. Vance, les hillbillies envers Washington et les soi-disant élites de Washington qu'on voit ici en Europe et aussi en France, entre le peuple ordinaire et Bruxelles. Et Paris, c'est vraiment un retour de manivelle contre l'establishment, contre l'établissement, contre ses élites. Et ça, c'est exactement la même chose de chaque côté de l'Atlantique. Alors pour moi, je me donne le défi, le challenge, en tant que journaliste, parce qu'on a sait que les journalistes ont été pas mal montrés du doigt, et avec raison, dans cette saison électorale. Je vais essayer de mieux faire mon boulot et mieux d'essayer de mieux comprendre ces gens que peut-être moi je suis coupable d'avoir ignoré trop longtemps et de ne pas juste dire que voilà, il s'agit de débiles, des bons riens, et ils ont voté Trump, et ça veut dire que voilà, parce que maintenant, à moins que l'Amérique puisse faire le travail de s'écouter, de s'entendre, de se parler, de se comprendre, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer, et même avec tout l'espoir de Obama, qui a beaucoup d'espoir, espérance pour l'avenir des États-Unis, on ne va pas y arriver sans surmonter cet obstacle. Pour le moment, il n'y a pas cet exercice, il n'y a pas ce travail, il n'y a pas cet effort pour se comprendre. Ça reste à venir et je pense qu'on va y arriver, mais pas tout de suite. Merci beaucoup.
En présentant mes vœux tout à l'heure, j'évoquais la grâce qui libère du pessimisme. Je ne savais pas que j'allais tout particulièrement adresser ces vœux à votre égard. En tout cas, même si vous vous êtes trompé, Douglas Herbert, sur le Brexit, sur la Syrie, sur Donald Trump, on est quand même heureux de vous entendre. Merci pour votre analyse. Je dirais que c'est plutôt finalement un témoignage sur la manière dont vous avez vécu tous ces derniers mois, sur la manière aussi dont cela pose des questions sur votre compréhension du monde et votre manière d'être journaliste, en insistant sur notamment l'imprévisibilité dans l'évolution des relations internationales et qui risque de nous conduire à des situations compliquées, difficiles, avec la montée du populisme, avec la fragmentation de l'Europe, avec finalement la remise en cause de l'establishment. Alors on a bien entendu que pour vous, l'élection de Donald Trump n'augure pas de bonnes choses. D'une certaine manière, espérons que cette fois encore, vous allez vous tromper. En tout cas, on va revenir vers vous sûrement dans le débat pour préciser un certain nombre de points, notamment peut-être sur ce qu'il serait vraiment important que l'Europe et la France ne ratent pas justement dans cette nouvelle réalité. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je laisse la parole maintenant à Pascal Boniface.
Merci. Bonsoir à tous. C'est très impressionnant de voir une salle aussi remplie en tout début d'année en plus, effectivement, et malgré les conditions climatiques néfastes. En tout cas, merci de votre présence. Je vais essayer de rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. Dans quel monde vit-on ? On parle beaucoup de nouvelles guerres froides, on parle d'un climat de guerre froide qui serait très inquiétant. Et on entend aussi souvent qu'il y a beaucoup plus de conflits, de guerres qu'auparavant et que le monde est plus dangereux. Je crois que c'est tout à fait inexact, que le monde n'est pas plus dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque où on craignait une guerre nucléaire entre Union soviétique et États-Unis, où un président américain parlait de guerre nucléaire limitée en Europe comme d'une option possible, ou où les soviétiques déployaient par dizaines des SS-20 et qu'il y avait des milliers de chars qui se faisaient face sur le rideau de fer. Donc il n'y a pas, le monde n'est pas plus dangereux, il n'y a pas plus de guerre. Statistiquement, les chiffres sont là, qu'il s'agisse de guerres de grande intensité, plus de 1000 morts par an, des conflits de moins grande intensité, entre 25 et 1000 morts par an. Il y a une vingtaine de conflits mineurs de moins qu'il y a 20 ou 30 ans, et il y a 3 ou 4, il y avait une 13 conflits majeurs il y a 30 ans, il y en a 7 ou 8 aujourd'hui. Donc, les choses ne vont pas bien. Il serait bien sûr mensonger de le dire, mais les choses ne vont pas plus mal. Et quelque part, c'est assez réconfortant, c'est que si nous avons ce sentiment prégnant que les choses vont plus mal, c'est qu'il y a toujours une sorte de nostalgie du paradis perdu chez chacun, mais c'est aussi parce que, un, nous sommes mieux informés qu'auparavant, et deux, nous avons la conscience augmente. Et que les gens trouvent inadmissible qu'il y ait encore des guerres, alors que c'était quelque chose qui paraissait comme une sorte de fatalité à laquelle on ne pouvait rien il y a quelques décennies. Donc une meilleure information, lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir, L'information des membres du Politburo de l'Union du Parti communiste de l'Union soviétique est faite par une demi-douzaine de fonctionnaires qui trient les dépêches. Aujourd'hui, bien sûr, on a un flot d'informations, les chaînes sont multiples, France 24 n'existait pas, de nombreuses chaînes se sont multipliées, de qualité inégale, France 24 fait partie des bonnes, et chacun peut avoir de multiples sources d'informations. Donc ça, c'est plutôt un progrès. Est-ce que, comme on l'entend, on est dans une nouvelle guerre froide ? Alors, d'autant moins, j'irais non, d'autant moins que Trump risque d'avoir de meilleures relations avec Moscou que son prédécesseur, c'est aussi autre chose. Mais on ne peut pas comparer ce qui était la guerre froide, c'est que il y a toujours des rivalités nationales. Mais Moscou n'est pas à la tête, la Russie n'a rien à voir avec l'Union soviétique, d'une part en tant que taille, en tant que puissance, et elle n'est pas à la tête d'un camp. Il n'y a pas deux blocs qui se font face à face, comme du temps de la guerre froide, avec une division idéologique très affirmée. Là, il y a des rivalités nationales classiques. Et si on relativise les choses, il faut réaliser que le budget militaire de la Russie, c'est 10% du budget militaire américain, auquel il faut ajouter le budget militaire français, britannique, allemand, etc. Donc, ceux qui parlent d'une nouvelle guerre froide, je dirais pas qu'ils se trompent ou ils trompent le public, mais ils ne décrivent pas un phénomène qui est réel. Il y a plutôt un sentiment un peu de vouloir faire peur, d'alarmer pour maintenir, ou il y a aussi, je crois, ce qui est le plus entre le complot et l'incompétence, l'incompétence est quand même beaucoup plus fréquente que le complot, il y a une paresse intellectuelle qui est de reprendre des analyses passées, des schémas passés, pour l'adapter au monde actuel. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on a quitté la guerre froide et le clivage Est-Ouest en 89, 90, 91, une étape historique a été manquée. Pour moi, le tournant à cette époque n'est pas la chute du mur de Berlin, qui n'est qu'un symbole, c'est lorsque Gorbatchev accepte de prendre des sanctions contre l'Irak, qui avait envahi le Koweït, et de voter la résolution 678, qui demande à l'Irak de quitter le Koweït qu'il avait envahi, faute de quoi la force serait utilisée pour l'en déloger. Pour la première fois, et ça a fonctionné, pour la première fois, la charte de l'ONU et le chapitre 7 a été utilisé tel qu'il était prévu par les rédacteurs de la charte. Et Gorbatchev a fait ceci en abandonnant un allié. Saddam Hussein était un allié de l'Union soviétique et Saddam s'était trompé d'époque. Tout simplement, il pensait que, comme dans la guerre froide classique, la superpuissance protégeait son allié et mettait son veto systématiquement. Ce qui n'a pas été le cas. Gorbatchev voulait faire ça pour faire un véritable nouvel ordre mondial. Sauf que les Occidentaux, après avoir empoché le retrait d'Afghanistan, le désarmement nucléaire, etc., lui ont refusé en juillet 90 une aide économique qu'il réclamait au sommet du G7. Kohl, Mitterrand étaient favorables, Margaret Thatcher également d'ailleurs, mais elle n'était plus au pouvoir, elle était remplacée par John Major, et Bush, père, et le Premier ministre japonais étaient hostiles. Gorbatchev leur a dit, messieurs, c'est la dernière fois que vous voyez comme président de l'Union soviétique, il y a eu le coup d'État, et depuis, en fait, on est toujours dans une recomposition. Donc on a loupé une étape historique, et je dois dire que la France est également co-responsable de cela, puisque on a eu une deuxième chance avec la résolution 1973 en 2011 pour une intervention militaire en Libye pour protéger la population. Il y a bien une résolution, on a changé le mandat en cours de route pour faire du changement de régime, et depuis, je pense que la guerre civile en Syrie, le blocage russe, est en même temps la traduction de ce qui n'a pas été construit en 90-91, de la guerre d'Irak et du fait qu'on ait changé en cours de route la mission en 2011. Et donc, on a des blocages parce qu'il n'y a plus de conflits idéologiques comme auparavant, mais il y a des rivalités nationales qui sont toujours très fortes et on n'a pas su réellement recréer une communauté internationale. La communauté internationale, on l'évoque très régulièrement, mais c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu. Et parce que quand on en parle, c'est pour dire qu'elle a échoué à mettre fin au conflit israélo-palestinien, à mettre fin à la guerre civile en Syrie, etc., etc. Il y a juste eu un moment où elle a été incarnée, c'est à la conférence de Paris en décembre 2015, parce que des pays très différents, de l'Inde à Haïti, de la Russie à la Chine, en passant par les États-Unis, l'Arabie Saoudite, etc., se sont tous mis d'accord, alors qu'ils avaient des positions et des intérêts très différents, pour dire on essaye de stopper le réchauffement climatique. Et là, dans leurs différences, dans leurs différents intérêts, un compromis a été trouvé entre les différents États. Mais c'est très rare, c'est très rare. Et donc, en fait, on est bien sur la même planète parce qu'elle est petite, mais les rivalités nationales l'emportent toujours. Et comme vous l'avez dit, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre. Et trop souvent, on parle en jugements moraux et non pas en compréhension. Non pas qu'il faille condamner la morale, en relations internationales. Mais si la morale devient un étendard qui empêche la compréhension, elle risque de devenir très facilement manichéenne, et elle est un peu comme la justice de Kant, elle a les mains blanches mais elle n'a pas de main. Et donc ce qu'il faut voir, c'est comment on améliore les choses, et non pas définir un idéal qui est inaccessible, mais voir comment concrètement on peut arranger les choses. Et je pense que les Occidentaux n'ont pas compris une chose, c'est que la grande évolution stratégique au cours des 40 dernières années, c'est bien sûr la fin du monde bipolaire, mais il a mis fin à 40-45 ans d'histoire, une période relativement longue mais courte au niveau historique. Et il y a une autre époque historique qui a pris fin et qui, elle, a duré 5 siècles, donc qui a beaucoup plus marqué les esprits, c'est la fin du monopole occidental sur la puissance. Mais tous les Occidentaux ne se sont pas rendus compte, et il y a encore des Occidentaux qui pensent qu'on peut diriger le monde comme avant et que l'on peut dire aux Chinois, aux Russes, aux Africains, aux Brésiliens comment faire. Et donc c'est à chaque fois que les Occidentaux veulent imposer aux autres leur point de vue, eh bien c'est un échec. Quand on négocie avec l'Iran sur l'armement nucléaire seulement avec les Occidentaux, ça ne marche pas. Si on inclut la Russie et la Chine, ça risque de marcher. C'est 5 plus 1. Si, lorsqu'on dit que la communauté internationale a sanctionné la Russie pour l'annexion de la Crimée, non, ni l'Inde, ni l'Afrique du Sud, ni le Brésil, ni la Chine n'ont sanctionné la Russie. Seulement les Occidentaux l'ont fait. Et donc on confond les Occidentaux et le reste du monde. Et cette mauvaise perception empêche de progresser parce que on se place au centre de l'univers. On a une vision occidentalo-centrée, mais les autres existent. Les autres existent, et si on ne tient pas compte de leurs sentiments, de leurs opinions, de leur existence et de leurs intérêts, qui peuvent être divergents des nôtres, et que l'on cherche à imposer notre volonté, nous allons à l'échec. Donc il faut tenir compte des autres. Comme l'avait dit Coluche, qui n'était pas géopolitologue, mais qui avait du bon sens, l'ennui dans les relations internationales, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. Oui, on ne peut pas imposer sa volonté aux autres, il faut tenir compte de cela. Et donc, pour terminer sur l'intervention de M. Douglas Herbert, oui, l'élection de Trump amène à beaucoup d'inquiétudes. C'est quelqu'un qui est ouvertement raciste, ouvertement sexiste, qui est quelqu'un de méprisant, quelqu'un dont, j'imagine, dans cette salle, peut se faire un ami ou un compagnon de soirée, de week-end. Mais il est au pouvoir, et donc il faudra faire avec pour 4 ans, et c'est justement peut-être parce qu'on l'a jugé en termes moraux et qu'on a condamné ses électeurs qu'il a pu prospérer et faire cela. Et donc il risque effectivement, parce que malgré tout, il arrive à la tête du pays le plus puissant du monde, et même si je pense qu'il va plutôt affaiblir son pays qu'il va le renforcer, qu'il va plutôt faire des États-Unis qui ne sera pas great again, mais qui va plutôt les faire slim again, eh bien, en tous les cas, en 2020, le pays n'aura pas décliné au point qu'il ne sera plus important dans les relations internationales. Il risque de relancer l'anti-américanisme en Amérique latine, il risque de se heurter très fortement à la Chine, qui n'est pas rien, mais il y a peut-être, et il risque bien sûr de mettre encore un peu plus de flamme sur le Proche-Orient, notamment s'il transfère l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, mais peut-être qu'au niveau européen, son action pourra à la limite être bénéfique, involontairement. Parce que lui, son grand dessein, c'est de faire l'inverse de ce qu'avaient fait Nixon et Kissinger en 70. Pour lui, le grand défi, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Et donc, il veut passer une alliance tactique avec la Russie afin de contrer l'émergence de la Chine. Alors que Nixon et Kissinger s'étaient alliés avec la Chine parce que l'ennemi numéro un était l'Union soviétique. Et là, si cela peut permettre de faire baisser les tensions et de faire baisser, non pas le climat de guerre froide, parce qu'on a un climat de guerre froide alors que la guerre froide est terminée, à quoi sert-il de mettre 1000 soldats de plus en Lituanie ou en Pologne par rapport à la Russie? Et donc là, en fait, les responsables de l'OTAN ont une grande responsabilité, même si les Russes n'en sont pas tout à fait exclus, c'est que à force d'avoir élargi l'OTAN, alors qu'on avait promis à Gorbatchev, à la fin de la guerre froide, qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN, de vouloir faire un mur anti-missile, d'avoir fait la guerre du Kosovo, etc., on est venu crisper la Russie, et après on se plaint qu'elle soit crispée, et donc il y a une sorte de cercle vicieux qui a été mis en place, et là Donald Trump risque de prendre tout le monde par surprise, parce que les Européens ont pris des sanctions à l'égard de la Russie après l'annexion de la Crimée. On n'a pas pris de sanctions à l'égard d'Israël après l'annexion de Jérusalem, etc. Il y a quand même d'autres choses. Et les États-Unis risquent de lever les sanctions avant les Européens. Et donc on va être un peu pris en déséquilibre. Mais si les Européens, du coup, qui sont habitués à une dépendance sécuritaire à l'égard des États-Unis depuis quatre générations au moins, il y a une sorte, on est habitué à cette dépendance. Trump nous dit, débrouillez-vous, je ne veux plus payer pour vous, vous êtes assez riche, je ne veux plus payer pour vous. Si ça conduit les Européens à se prendre enfin en main, alors qu'ils ne l'ont jamais réellement fait depuis 45 on ne pouvait pas, l'Europe était détruite, mais en 60 on pouvait commencer à le faire, dans les années 90 aussi. L'OTAN n'aurait pas dû survivre à la menace qui a suscité sa création. C'est tout à fait, jamais on a vu une alliance militaire qui survit à la menace qui a suscité sa création. Eh bien peut-être qu'en Europe, il y a une chance, si les Européens se prennent en main, d'avoir quelque chose. Sauf que pour cela, il faut trouver des leaders. Et des leaders, il n'y en a plus beaucoup en Europe, parce qu'il y a surtout des pouvoirs faibles. Pouvoirs faibles en Espagne, qui n'a pas de véritable gouvernement, enfin c'est un gouvernement au rabais, par acceptation. Gouvernement faible en Italie. En France, gouvernement faible de par les échéances, parce que, temps de vie, on est dans une situation très unique, où le président d'exercice, on sait qu'il ne sera plus président en mai, et Madame Merkel, qui est la femme forte en Europe, est contestée en interne, de par sa politique à l'égard des réfugiés, même s'il n'y a pas de réelle alternative à Madame Merkel. Mais donc là, il y a peut-être une opportunité à, justement, si les Européens avaient des pouvoirs forts, ils pourraient avoir une opportunité pour recréer une Europe puissance, une Europe espace, une Europe qui puisse être une puissance multilatéraliste, parce que l'Europe est une construction multilatérale, et donc elle a ça dans son ADN, et une construction qui pourrait œuvrer justement à bâtir ce nouvel ordre mondial avec l'action de Trump peut être soit un vide, soit un trop-plein. Mais disons que Trump faisait peur parce qu'on ne le connaissait pas, mais Hillary Clinton était guère plus rassurante à mes yeux, mais peut-être là on a un débat avec M. Herbert, parce qu'elle était beaucoup plus interventionniste, les néoconservateurs la soutenaient. Disons que Hillary Clinton faisait peur parce qu'on savait ce qu'elle pouvait faire, alors que Trump fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire. Et donc c'est deux sources d'inquiétude différentes. Et donc là, selon les résultats que donneront l'élection présidentielle en France, selon les résultats en Allemagne, on n'a plus la Grande-Bretagne, le Brexit est une formidable opportunité pour l'Europe, parce que les Britanniques étaient un frein, n'étaient pas un moteur dans la construction européenne, et donc si vous avez un surpoids de moins, on a vécu en Europe dans l'illusion que plus on est, mieux c'est. Mais non, les derniers élargissements ont été prématurés, mal construits, on le voit bien, on n'est pas du tout d'accord avec les nouveaux pays européens sur les réfugiés, sur beaucoup de choses, et donc il vaut mieux parfois avoir un partenaire de moins et être un peu plus allant, etc. Donc il faudra reconstruire le couple franco-allemand, il faudra trop partir, mais tout ceci peut se faire, et donc il y a peut-être des opportunités, à condition, les opportunités ne sont rien si on ne les saisit pas, si on ne les construit pas, ça c'est le volontarisme. Mais par rapport à la France, j'ai encore 5 minutes,
oui, tout à fait.
Moi je suis frappé, c'est le thème de mon prochain livre. En 2003, en tant que Français, c'était formidable, dès que vous partiez à l'étranger, vous étiez célébré, vous n'aviez même pas à ouvrir la bouche que, en tant que Français, à part aux États-Unis, vous étiez applaudi, etc. Et c'était l'héritage du refus de la guerre d'Irak. Disons, ceci venait se greffer sur une tradition ancienne d'une France qui dit l'universel, d'une France qui parle pour ceux qui n'ont pas de voix, etc. Et la France, à ce moment-là, avait incarné le courage de dire non à l'hyperpuissance de l'époque, au nom de principe, non à la guerre comme moyen de résoudre des problèmes politiques, non aux guerres illégales par ailleurs, et les mises en garde que le pouvoir avait adressées, malheureusement, se sont révélées exactes sur le développement du terrorisme, l'insécurité supplémentaire, etc. Et donc, c'était une époque formidable. Aujourd'hui, quand je vais à l'étranger, moi je ne suis pas spécialiste d'une région, donc je vais un peu partout, eh bien, dans les pays musulmans et africains, mais aussi dans les pays asiatiques, la première question qu'on me pose, c'est pourquoi la France est un pays islamophobe. Et donc, on était célébré auparavant, maintenant on est mis en accusation. Alors, je défends en disant non, il y a l'islamophobie en France, puis la France n'est pas un pays, mais on est perçu comme un pays intolérant. Et donc, aura internationale a diminué pour deux raisons, je pense. La première, ce sont nos débats nationaux. On vit dans un monde globalisé. Et donc, de même que même si la France est moins importante que les États-Unis, on connaît les déclarations de Trump, mais nos débats internes de stigmatisation des minorités, ben voilà, surtout si des gens se sentent concernés, ça passe les frontières. Ce n'est pas confiné dans l'espace public. Et il y a des responsables politiques qui sont peut-être pas des grands chefs d'État, etc. Mais voilà, quand ils disent des propos, surtout s'ils sont excessifs, ils sont bien sûr, les caisses de résonance des médias et des réseaux sociaux est telle que on sait. Et donc le climat, vous le constatez chaque jour, n'est pas terrible là-dessus en France, le climat est un peu lourd. Et le second point, c'est que notre politique étrangère qui était si admirée en 2003, s'est un petit peu affadie au fur et à mesure. Je pense qu'en politique étrangère, il n'y a pas une différence entre gauche et droite, mais une différence entre ce que je qualifie de gaullo-mitterrandiste et d'un côté, et d'atlantiste ou d'occidentaliste de l'autre. Les gaullo-mitterrandistes, donc la Ve République, De Gaulle, critiqué par Mitterrand, mais repris par Mitterrand par la suite, et repris par Chirac lorsqu'il refuse la guerre d'Irak, c'est l'idée que, un, ce qui compte pour la France, c'est d'être indépendant, d'être en phase avec des valeurs universelles. La France est un pays occidental, certes, mais elle ne peut pas être résumée à cela. Elle doit avoir des ponts, des alliances avec ce qu'on appelle le Sud hier, les pays émergents aujourd'hui, et on ne peut pas la résumer à un seul statut de pays occidental, et elle est quelque part ce que l'on appelait, pardonnez-moi, l'emmerdeuse du monde. Elle doit dire les choses lorsqu'elle estime qu'elle doit les dire, même si, comme en 2003, elle reçoit cette formule de Condi Rice disant qu'il fallait oublier l'Allemagne, pardonner la Russie et punir la France. Donc on était vraiment dans le collimateur. Les atlantistes hier, les occidentalistes aujourd'hui, pensent que le plus important c'est de résister à la menace soviétique hier et aujourd'hui, russe, chinoise, islamiste, etc. Et que seuls les États-Unis peuvent nous en protéger et qu'il faut donc se rallier à eux et que la solidarité occidentale doit préempter sur l'indépendance. Et c'est ce qui a fait la différence entre Chirac et Blair en 2003. Tony Blair était contre la guerre d'Irak. Mais il pensait, parce qu'il voyait bien ce qui allait se passer, mais pour lui, la solidarité avec les États-Unis était l'impératif numéro un. Alors que pour la France, c'était les principes et l'intérêt national et l'indépendance. Et donc, au fur et à mesure, et la rupture ne date pas de Nicolas Sarkozy, comme beaucoup le pensent, la rupture date de Chirac lui-même en 2004-2005, il va, comme s'il avait été saisi par son audace et qu'il craignait le French bashing aux États-Unis, les conséquences de ce French bashing, etc., sur bien des points qu'il est, je n'aurai pas le temps d'énumérer aujourd'hui, mais plein de petits marqueurs. Il n'y a pas une rupture totale, mais c'est une sorte de soft landing du gaullo-mitterrandisme avec la réintégration dans l'OTAN, avec le fait qu'on ne proteste pas, enfin on accepte que l'avion d'Evo Morales ne survole pas la France, que Edgar Snowden pourrait être dedans, on ne critique pas trop la NSA, enfin voilà. Et une fois encore, c'est depuis une dizaine d'années, la France a perdu ce qui faisait sa particularité première. Elle n'a pas totalement perdu, mais ça s'est un peu estompé, c'est moins visible. Et si vous ajoutez cela avec nos débats intérieurs qui, eux, sont très visibles et très critiqués, on a un peu perdu ça. Ça peut redémarrer, mais on a un peu perdu ça, et ça, c'est vraiment très dommage. Puisque vous avez cité, je voudrais juste dire un mot sur le terrorisme, et parce que c'est un agenda. Ça a été le début des vœux du président de la République. J'avais écrit un livre en 2007 qui était une lettre ouverte aux candidats de la présidentielle. Et j'avais un chapitre sur le terrorisme et je suppliais les candidats de ne pas trop en parler. En 2007, c'était, et les deux premières, je reprends dans le livre qui va sortir en janvier, ces deux premières pages de ce chapitre parce que je pourrais malheureusement ne pas y changer une ligne. Je trouve qu'on parle trop du terrorisme. Alors, vous dites, j'en parle moi-même. Enfin, c'est pour aller à contre-courant. Que le président de la République commence ses vœux par le terrorisme, c'est une victoire pour les terroristes. C'est une victoire pour eux, parce qu'on en fait un danger majeur. Quand on parle de Troisième Guerre mondiale ou de guerre contre le terrorisme, c'est une erreur majeure. On facilite leur recrutement, on facilite leur financement. Et pour des esprits attardés, fragiles, qui vont les rejoindre, ils disent, regardez, on est important, puisqu'on est considéré à l'équivalent du Troisième Reich de ce qu'était la menace soviétique ou du temps de la guerre froide. C'est contre-productif. J'appelle depuis longtemps et en vain à une réflexion, parce que bien sûr les hommes politiques se posent comme des remparts contre le terrorisme. Et puis les médias en parlent aussi beaucoup parce que ça dope l'audience. Mais je veux dire, Koulibaly, quand il fait, on va commémorer le deuxième anniversaire d'ici quelques jours, quand il fait la prise d'otage et c'est saturé l'hypercachère, il téléphone, il ne demande pas à parler au préfet, au ministre de l'Intérieur, au président, il demande à parler à BFM TV. Et donc, plus on met en avant, et ceux qui, à Saint-Étienne-du-Rouvray, ont assassiné le père Hamel, ont voulu se filmer en direct pour montrer les images. Donc, à trop parler du terrorisme, on tombe dans le piège qui nous est tendu en leur donnant une importance qu'ils n'ont pas. Parce que, finalement, c'est quand même pas, bien sûr, leur volonté de nous détruire. Mais ils n'en ont pas les moyens, tout simplement. Ils n'en ont pas les moyens. Et moi, j'habite à 200 mètres de la Belle Équipe, où il y a eu 13 morts le 13 novembre. L'Iris est pas très loin du Bataclan. Mais moi, j'ai plus peur pour mes enfants s'ils partent en week-end en voiture que s'ils vont boire un verre dans les environs. Et donc, on a fait... Raymond Aron disait déjà en 62... Et Raymond Aron n'était pas un islamo-gauchiste, à ma connaissance. Raymond Aron a déjà dit en 62 que le terrorisme a un impact médiatique bien plus fort que son impact stratégique. C'est toujours vrai. Et il n'y a pas, il faudrait avoir une réflexion collective, comment traiter ça. Bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler. Mais en parler autant, faire Breaking News, édition spéciale, toute la journée, etc., on tombe vraiment dans ce piège parce que, même si l'État islamique perd son assise territoriale dans l'année, on n'en aura pas fini avec le terrorisme. C'est à la fois un combat de longue haleine, qu'il ne faut pas nier, mais qu'il ne faut pas non plus exagérer, sauf une fois encore, à nourrir ce que l'on dit vouloir condamner. Et là, il y a une réflexion à la fois citoyenne, mais également politique, qui doit être menée parce que je pense que malheureusement, là, on va dans la direction inverse et... la réflexion de gens comme vous est extrêmement importante pour essayer d'enrayer ce phénomène négatif. Je vous remercie.
Merci, merci beaucoup, oui, Pascal Boniface, de nous avoir dressé un tableau qui nous aide à lire autrement, je crois, les événements du monde. Je ne reprends que quelques points. Le monde n'est pas plus dangereux aujourd'hui qu'hier. Nous sommes mieux informés. Nous ne sommes pas dans une nouvelle guerre froide, mais plutôt dans une situation issue du tournant raté de 1990, où la Russie a été laissée de côté sans arriver à constituer de véritable communauté internationale. Il nous faut sortir de cette vision occidentalo-centrée, qui regarde les relations internationales souvent en termes très moraux, et mieux prendre en compte les intérêts de chacun. On a entendu aussi, je crois que c'était vraiment important, et c'est peut-être ce qui peut... aussi être positif d'une certaine manière, c'est que l'action du président Trump, finalement, par voie de conséquence, pourra peut-être être bénéfique pour l'Europe si elle se prend en main. Reste à trouver, évidemment, les leaders pour incarner cela. Vous avez parlé de la France aussi, la France en 2003 qui était très appréciée, les choses ont bougé, une France qui aujourd'hui, à l'international, est mise en accusation. En raison des débats nationaux qui ne sont pas compris à l'extérieur et aussi en raison de la ligne de politique étrangère où la France semble avoir perdu sa particularité première. Et vous avez terminé sur le danger du terrorisme qu'il faut savoir situer à la juste place. Alors beaucoup de points, bien d'autres encore qui ont été dits, qui nourrissent notre réflexion et qui très certainement vont alimenter le débat que nous allons ouvrir maintenant. Voilà, il y a deux micros qui vont se promener. N'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions prendre. Il y a déjà une question immédiate ici.
Oui, Monsieur Boniface, vous ne pouviez pas parler de tout, mais vous n'avez pas évoqué, je dirais, la Syrie, le Moyen-Orient. La France est sortie du jeu. Elle regarde, même si elle a une présence militaire, on n'a pas l'impression qu'elle a un rôle politique. Est-ce que vous pensez qu'avec les interrogations de la politique de Trump, il y a un enjeu de politique internationale pour la France au Moyen-Orient, peut-être si ça dégénère aussi dans la relation avec l'Iran, en 2017?
Merci. On ne va peut-être pas répondre tout de suite, on va prendre quelques questions. Voilà, on monte un peu plus haut. Jérôme Vignon.
C'est aussi une question à Pascal Boniface, même si j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Herbert. Je partage votre sentiment. Vous avez évoqué le terme de Troisième Guerre mondiale pour dire qu'il fallait l'éviter. C'est un terme qui a été utilisé par le pape François à plusieurs reprises. Et il désignait par là, non pas tellement des conflits militaires, mais une situation endémique qui est plutôt d'ordre économique, social, environnemental, dans lequel l'accroissement des inégalités, l'incapacité à maîtriser les défis environnementaux, qui sont très graves dans des régions pauvres, créent un climat, effectivement, de danger, et qui qualifiait, au fond, de climat mondial, de déséquilibre et comportant un risque de guerre. Est-ce que ce propos du pape François n'amène pas à soulever une dimension économique, sociale, environnementale qui n'était pas présente dans votre propos?
Merci. Et puis peut-être une troisième, je crois qu'il y avait... On va prendre tout de suite là.
Bonsoir, merci. J'ai une question qui concerne les pays d'Europe centrale qui, après 91, ont été progressivement intégrés. Sans qu'il y ait l'équivalent de ce qui s'était passé après la guerre, un plan Marshall. Et la question est double. Quels sont les enjeux pour l'Europe, bien au-delà de la France, de ce qui se passe actuellement, en particulier en Hongrie et en Pologne, avec un retour vers des régimes autoritaires qui ne sont presque plus démocratiques, et quel est le, alors que c'est en Europe et qu'en particulier c'est à la frontière d'un pays qui est une des plus grosses dictatures, la Biélorussie. Donc quels sont les enjeux? Y a-t-il des conséquences importantes, des risques, ou est-ce que vous considérez cela comme un détour mineur de l'histoire de l'Europe?
Merci. On va répondre à ces trois questions. On pourrait compléter.
Oui, alors effectivement, c'est déjà un pari hasardeux. Enfin, c'était un pari hasardeux, c'est plus maintenant, de faire le tour du monde en 80 jours, mais en 20 minutes, il y a encore plus de chances d'oublier des éléments. Sur la Syrie, ce sont l'accord de cessez-le-feu qui a été signé. C'est la première fois depuis des décennies qu'il y a un accord stratégique majeur sans les États-Unis au Proche-Orient. Et donc là, c'est la martingale de Poutine. Quand je pense que certains lui disaient il y a 2 ans, non pas qu'il soit sympathique, mais Poutine n'est pas un stratège, etc. Si, il a joué ses cartes, il a aussi joué de nos propres faiblesses. Mais effectivement, la France participe aux opérations militaires, mais on a été marginalisé. On l'a été d'ailleurs aussi par les Américains lorsqu'ils ont traité directement avec les Russes alors qu'on n'était pas là. Est-ce que c'est parce qu'on est parti d'une position pas de Bachar, on n'était pas les seuls à le faire? Mais en tous les cas, la position un peu intransigeante initiale fait que maintenant c'est un peu à l'inverse, c'est que on est marginalisé. Le président de la République dit souvent qu'on aurait dû intervenir en novembre 2013 et que là Bachar aurait été renversé. Je pense que ça aurait été une grave erreur. D'une part, parce qu'on n'avait pas de mandat, et la France, moins que quiconque, peut se permettre de faire une intervention militaire sans mandat des Nations Unies, et que, voilà, si Obama n'y est pas allé, c'est pour des bonnes raisons. Son erreur n'est pas de ne pas être intervenu, son erreur est d'avoir tracé des lignes rouges qui n'ont pas été respectées. Mais ne pas intervenir en Syrie, vu les résultats de l'Irak et de la Libye, c'est la sagesse, tout simplement, c'est la sagesse. Mais effectivement, là, on est, disons, pas exclu, mais marginalisé sur l'affaire syrienne aujourd'hui. Alors, sur la Troisième Guerre mondiale, disons que le pape François a l'immense mérite de remettre au centre du jeu la question sociale, qui est oubliée dans les discours. Et d'ailleurs, quand on parle de terrorisme, etc., on oublie très souvent la question sociale dans les commentaires qui sont faits. Or, l'élection de Trump, c'est bien une question sociale. Vous l'avez évoqué, Monsieur Herbert, etc. Et donc, l'immense mérite du pape, c'est de remettre effectivement, plus que les chefs d'État et de gouvernement, la question sociale au centre des débats sur la mondialisation, alors qu'elle a été écartée. Alors, j'aime pas le thème de guerre mondiale, mais il y a en tous les cas un risque d'exclusion mondiale et on sait très bien que si vous humiliez les gens, si vous les excluez, les choses ne se font pas naturellement, surtout à une période de communication où tout le monde sait ce qui se passe. Donc en tous les cas, même si moi le terme de Troisième Guerre mondiale me gêne en tant que tel, mais dire qu'il faut, si c'est la guerre, la pauvreté, oui, alors d'accord, effectivement, on peut, mais en tous les cas, je vois dans les propos du pape, y compris d'ailleurs les déclarations qu'il a faites par rapport au débat français sur une laïcité d'obscurantisme, tout simplement, sont quand même très forts et ils sont, à mon sens, les bienvenus. Et permettre un peu quand même de montrer qu'on n'est pas dans un choc de civilisation, c'est encore plus important que ce soit le pape qui le dit, parce que, je veux dire, l'islamophobie et le djihadisme, c'est les deux faces d'une même pièce. Que veut l'État islamique? C'est montrer qu'il n'y a pas de place pour les musulmans dans les pays occidentaux. Et donc, si des responsables politiques ou des journalistes disent ça la même chose, ils font bon. Et là, le pape, en tant que voilà plus haut représentant des catholiques, dit exactement l'inverse. Donc, il tire le tapis sous les pieds des terroristes et des djihadistes en montrant justement qu'il y a une fraternité possible dans des religions différentes, etc. Et que, justement, les religions doivent dialoguer comme cela. Donc, c'est la meilleure façon de lutter contre l'extrémisme que de faire cela. Sur votre question sur l'Europe centrale, on a absorbé ces pays, enfin, on les a accueillis. Alors, le plan Marshall a existé. Parce que ces pays se sont développés, il a existé grâce à l'Union européenne et grâce au transfert de fonds. La situation économique de tous les pays qui ont adhéré à l'Union européenne, alors même si la Bulgarie et la Roumanie sont en retard, mais pour des raisons bien connues, etc., c'est quand même fortement développé. Mais l'histoire est longue et nous avons, par rapport à la Russie, par rapport à l'étranger, par rapport encore des réflexes un peu différents. Et donc il y a, et là, les tensions en plus, notamment les pays baltes. Et alors, je comprends, je serais balte ou polonais, j'aurais peur de la Russie. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très intelligent de la part des pays de l'OTAN d'alimenter cette peur comme on le fait aujourd'hui. Parce que c'est vraiment là aussi un cercle vicieux. Mais en tous les cas, il y a toujours, il y a encore, non pas la vieille et la nouvelle Europe, comme le disait Rumsfeld, mais il y a encore des différences, notamment par rapport à l'étranger, qui existent encore. Il y a eu des manifestations en République tchèque contre les réfugiés, il y avait 200 réfugiés, c'est pas, voilà, c'est quand même pas très sérieux.
Prenez le micro dans ce cas-là, mais la prochaine fois, demandez la parole.
Excusez-moi.
Allez-y.
Aujourd'hui, en Pologne, il y a des manifestations devant le Parlement qui a bafoué les règles démocratiques, quand même.
Oui, la société civile polonaise...
C'est vraiment sérieux. Les Polonais considèrent que c'est aussi sérieux que 91.
Très bien, merci. On laisse... Alors, peut-être Douglas.
Non, mais oui, j'allais juste... En fait, il y a une ironie du sort, et c'est paradoxal complètement que la Pologne a été perçue comme étant... un des pays les plus forts européens. C'était un des plus européens il y a quelques années, jusqu'à voilà, récemment maintenant, avec le gouvernement actuel. Ce qui me concerne le plus, ce qui m'inquiète le plus au niveau de l'Europe centrale, je vais parler séparément des pays baltes et de l'Europe centrale, de l'Hongrie et de la Pologne, mais sur le plan migratoire d'abord. Parce que, comme on avait dit, que ces pays-là, oui, ils ont une culture différente. Je comprends, surtout avec l'Hongrie, ils n'ont pas l'habitude de prendre des gens des autres cultures. Ils ont des sociétés historiquement plus homogènes. Et voilà, ça a été un peu un choc. Alors, dans la mesure où j'ai dit qu'il faut comprendre les autres, bon, je peux un peu sympathiser et comprendre un peu leur culture. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'ils fassent un sursaut, un peu. Il faut surmonter... ce côté de leur culture, de leur passé. C'est vraiment important en ce moment parce que vraiment, vraiment, c'est incroyable qu'ils ont pris quasiment personne. Je sais que la France n'a pas été non plus brillante sur ce plan-là avec les migrants, mais quand on regarde vers l'Europe de l'Est, quand ils ont soit complètement refusé le plan des soi-disant quotas, j'aime pas le mot quota, mais refusé carrément de prendre même quelques centaines de réfugiés, dans quelques cas, ça m'inquiète beaucoup. Surtout à un moment où il faudrait que l'Europe vraiment prenne à bras le corps cette question et parler plus de l'aide directe aux réfugiés qu'ils en ont besoin plus que jamais. Oui, il n'y a pas plus d'un million de réfugiés qui viennent par les Balkans comme en 2015. Ça a un peu baissé depuis 2015, mais ça continue à des niveaux assez élevés et ça va continuer. Et parce que la guerre en Syrie n'est pas finie, n'est pas terminée, et ce fameux cessez-le-feu, ça a déjà été violé. Alors, concernant les pays baltes, je dirais que moi, J'ai travaillé, j'ai passé 7 mois en Estonie, à Tallinn, dans les années 90. C'était juste après l'indépendance de l'Estonie. Alors c'était un pays indépendant à l'époque, mais pas encore dans l'Union européenne. Et ils en étaient très fiers, bien sûr. C'est après le joug soviétique pendant des décennies. Ils ne parlaient que de la présence soviétique, de la présence des troupes russes sur leur territoire. Là, à l'époque où j'y travaillais, c'était un pays indépendant, mais les Russes, les soldats russes étaient toujours présents sur le sol estonien. Et ça, c'était le titre tous les jours de tous les journaux estoniens. Alors moi, je me mets dans leur tête, je comprends parfaitement. Il y a une ville en Estonie, Narva, à l'est. Narva, c'est une ville estonienne qui est 96% russophone. C'est-à-dire des Russes, et la Russie, pendant plusieurs années, ils distribuent, ils donnent des passeports russes à cette population, ils se considèrent comme des citoyens russes. Alors c'est vraiment, c'est pas que de la paranoïa, ils ne sont pas que des paranoïas, les Estoniens. C'est vraiment, comme vous avez remarqué, à force de constater, la géographie est omniprésente dans leur quotidien de tous les jours. Et alors c'est pour ça que je sympathise, je comprends, ayant travaillé et en Russie et en Estonie l'un après l'autre et ayant vécu les deux cultures vraiment presque diamétralement opposées parfois. Je comprends les Estoniens et moi, ce que je crains maintenant, ce que je redoute avec Poutine, parce que je vais être clair, je déteste Poutine, j'adore la Russie. Et les deux choses ne sont pas la même. J'adore la langue russe, j'adore la littérature russe, j'ai beaucoup d'amis russes, je déteste Poutine, c'est pas la même chose. Alors, je pense qu'il pourrait se servir de ce moment dans l'histoire, ce moment où, comme Hollande a dit, tout peut basculer, de tester l'OTAN. Je sais que ça a l'air un peu une idée reçue que tout le monde répète, mais c'est vrai. C'est une idée reçue parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait se passer. C'est-à-dire que la Russie pourrait juste tester avec une petite incursion de l'Estonie dans des pays baltes, juste pour voir comment l'Europe va réagir. Poutine, c'est un maître de ça. Oui, il est maître de judo, oui. Il va voir, il ne va pas être trop agressif. Il va juste voir qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut pousser jusqu'à quel point? Et voilà, juste pour voir, est-ce que l'Europe est vraiment unie? Est-ce que, comme on avait dit, je sais que ça n'existe pas, comme vous avez dit correctement, la communauté internationale, je suis d'accord, c'est un peu abstrait, mais par contre, ce qui existe, c'est le droit international. Ça, c'est inscrit dans les traités de l'après-guerre. Et ça, si Poutine fait quelque chose à l'encontre qui vraiment viole le sol... d'un des pays baltes, c'est une violation du droit international. Et ça, c'est vraiment un défi, un challenge pour l'Europe. Et ça serait très intéressant de voir comment on va réagir. Et je pense que ça va être chacun un autre dispersé.
La réaction de Pascal oui. Boniface avant de redonner la parole.
Oui, le droit international, ça existe, c'est important, mais les pays de l'OTAN l'ont violé en 1999 en bombardant Belgrade. Alors que la Yougoslavie n'avait pas déclaré la guerre à l'OTAN et n'était pas intervenue. Donc il y a une violation très grave du droit international. En 1999, en 2003, la guerre d'Irak était une grave violation du droit international. Et donc c'est aussi ça qui est qui décrédibilise le dossier occidental. C'est quand on se réclame du droit international, mais pour les autres. Nous, on peut le fouler aux pieds, mais les autres doivent le respecter à la lettre. Et ça, c'est pas très crédible en face. Je veux dire, bien sûr, la Crimée, l'annexion de la Crimée est contraire au droit international. Mais c'était une terre russe, il n'y a pas eu un coup de feu, les Russes n'ont pas été bombardés Kiev. Nous avons bombardé Belgrade, alors qu'on ne remettait pas en cause la souveraineté de la Yougoslavie sur le Kosovo. Donc voilà, moi je veux bien qu'on respecte le droit international, mais on ne peut pas être dans la position où on dit il faut respecter le droit international, et puis en fait ça nous arrange pas trop de le respecter, donc on ne le respecte pas. Par rapport, et là c'est un vrai débat entre nous, par rapport au tester, Poutine avance, jusqu'où il peut avancer. Ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il n'ira pas mettre le pied d'un soldat dans un pays de l'OTAN. Il est brutal, mais il n'est pas idiot. Et donc, il sait qu'il y a des limites à ne pas dépasser, et mettre le pied d'un soldat dans un pays de l'OTAN, ça serait contraire à ses intérêts. En plus, il y avait un appétit des Russes pour la Crimée. Il n'y a pas un appétit des Russes pour l'Estonie, la Lituanie ou la Pologne. Donc, je ne crois pas, moi, à l'hypothèse où Poutine ira essayer de grignoter les territoires, etc. Par contre, effectivement, il avance ses pions là où il peut, mais ce qu'ils disent sur la Syrie, c'est que ils nous ont aidés au Mali et en Syrie, et ils combattent ceux que nous on a combattu au Mali. Et voilà. Donc c'est, je pense quand même, je veux pas me faire l'avocat de Poutine parce que il est des dérives autocrates, je pense qu'il atteint le maximum, etc. Ce qui s'est passé à Alep, c'est un crime de guerre, à n'en pas douter, etc. Mais justement, j'ai eu trop de débats. On disait oui, Poutine, c'est horrible, etc. Sans comprendre pourquoi les Russes le soutiennent, parce qu'il y a des raisons nationales au soutien. Et vous aimez la Russie et vous aimez les Russes, mais pas Poutine. Sauf que la Russie et les Russes aiment Poutine. Donc c'est.
Alors. Oui, là je sens qu'il y a une. Alors très très rapidement. Très rapidement et puis on redonne vraiment les questions, la parole à la salle, Paul. Très rapidement.
Oui, bon, très rapidement, c'est vrai que les Russes aiment Poutine. Je vais juste dire que c'est vrai parce que 98% des Russes, ils ont leur information et tout ce qu'ils savent de la télévision d'État qui est d'abord contrôlée par. Non. Mais d'abord, ils ont une source d'information et très souvent, comme vous le trouvez, avec les Russes dans leur cuisine, ils commencent vraiment à boire un peu et à parler un peu plus ouvertement. Ils commencent à dire des choses qui ne sont pas forcément de l'amour pour Poutine. C'est-à-dire, je pense que c'est leur sentiment pour Poutine, c'est un peu stéréotypé de dire qu'il a une cote de popularité très, très, très élevée. Je pense que ça peut vraiment tourner rapidement, se retourner contre lui, surtout avec l'état de l'économie russe maintenant qui est vraiment en berne et pire. Je pense que c'est plus nuancé. Je pense que ce n'est pas une adoration de Poutine, loin s'en faut.
Merci. On reprend les questions. Il y a la question de Bordeaux, la traditionnelle question de Bordeaux.
Alors, la question de Bordeaux, faut-il réguler le droit à l'information revendiqué par les journalistes ?
Faut-il réguler le droit à l'information revendiqué par les journalistes, c'est ça ?
Dans quel sens ?
Alors, on va prendre d'autres questions. Ça va laisser le temps à Douglas de réfléchir à la réponse. Alors, il y avait des questions par ici, voilà, les deux questions.
Vous avez évoqué la faiblesse onusienne. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Le rôle de l'ONU. Et puis, il y a une question juste derrière, voilà.
Oui, je voulais savoir ce qui était le plus alarmant aux États-Unis, l'élection de Trump ou le fait que le Congrès et le Sénat ont une majorité républicaine.
Pardon, j'ai pas entendu.
Que le Congrès et le Sénat ont une majorité républicaine, c'est-à-dire l'alignement des planètes.
Très bien. Est-ce que Douglas, prêt ?
Ouais, je vais juste pour répondre à cette question rapidement, c'est que les deux, j'ai peur des deux en fait. Non, et c'est pas pour être juste léger. En fait, parce que au début, on disait que Trump n'était pas républicain. Tous les républicains s'étaient retournés contre Trump. Ils se révoltaient un peu contre lui. Et maintenant, on voit ces derniers temps que tout le monde commence à se rallier à la cause Trump. Et je pense que c'est vraiment ça le danger. On a déjà, hier, même avant que le nouveau Congrès s'est réuni, ils ont agi pour abolir le comité d'éthique, c'est-à-dire les règles d'éthique qui surveillent les règles de conduite éthique au Congrès. C'est incroyable. Je sais que oui, peut-être il y a bon argument que le comité tel qu'il existait n'était pas parfait, il y avait beaucoup d'abus, beaucoup de corruption, peut-être c'était trop politisé, oui, c'est vrai. Mais cela dire que voilà, mieux vaut ne pas avoir un comité d'éthique. Alors bon, c'est un petit exemple, mais ça c'est déjà avant le premier jour du nouveau congrès républicain. Alors pour moi, oui, j'en ai peur, parce que n'oublions pas qu'au moins au début, Obama avait un peu d'alliés au Congrès, mais il avait, depuis longtemps, il a plus le Congrès, il a tout le Congrès contre lui. Alors imaginez-vous un président tel Trump qui est déjà imprévisible, l'imprévu total, et avec un Congrès de gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et avec une coterie de gens autour de lui à la Maison-Blanche qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui sont plus idéologiques que lui, qui peuvent peser sur lui, qui peuvent l'influencer avec leurs mobiles un peu sombres.
sur le droit à l'information. Est-ce qu'il faut réguler le droit à l'information?
Non. En tant que journaliste, moi, je suis toujours pour plus d'informations, autant d'informations possibles. Je sais même l'information que j'aime pas. Par contre, ce que je veux, c'est pas une question de réguler l'information, mais je veux bien ce qui est en train de commencer, on commence à voir, vérification de l'information. C'est-à-dire vraiment, et ça va de pair, de concert avec ce que j'ai dit sur la vigilance. La vigilance, ça s'applique aux journalistes aussi, et à nous tous en public, oui. Mais pour nous, être vraiment vigilants, et une bonne chose en ce qui concerne l'information, c'est que maintenant, Facebook, pour la première fois, ça voue être une société médiatique. C'est-à-dire, c'est une organisation médiatique, Facebook. C'est très important, parce qu'à partir du moment où Facebook se reconnaît comme étant un média, et non seulement juste un site de divertissement, de partage social, à partir de ce moment-là, il faut avoir des mécanismes et des outils pour mieux vérifier l'info, ce qui commence à se faire. Et même le public, tel qu'on fait maintenant un peu sur Wikipédia, il y a l'auto-vérification. Des gens qui peuvent vérifier les infos. Vous lisez un papier, vous regardez quelque chose, une vidéo à la télévision, sur votre ordinateur, et c'est noté. C'est noté, soyez prudent avec cette info, soyez prudente avec cette vidéo. On n'est pas certain. Ici, il y a des choses qui ne sont pas complètement vérifiées, corroborées, voilà. Mais pas bannir l'info, pas interdire l'info, pas réguler l'info, non.
Les Nations Unies.
Oui, alors il y a un espoir avec le nouveau secrétaire général, Antonio Guterres, qui est quelqu'un qui est dynamique, qui a une vision globale, qui a fait ses preuves, non seulement à la tête du Portugal, mais aussi à la tête du Haut Comité des réfugiés. Donc il sera plus dynamique et plus indépendant, parce que Ban Ki-moon était, disons, très lié aux États-Unis, il ne prenait pas de décision sans en référer à l'ambassade des États-Unis. Donc, ça ira mieux. Mais en même temps, le secrétaire général, c'est pas le président des Nations Unies. Donc, il est quand même dépendant des membres permanents. Et tant que les membres permanents ne se mettent pas d'accord, bah, c'est l'échec. C'est pas l'ONU en tant que tel. Des fois, on dit c'est à cause du droit de veto. Mais s'il n'y avait pas de droit de veto, il n'y aurait pas d'ONU. Parce qu'aucun des grands pays n'aurait accepté de rentrer là-dedans en devant obéir à une majorité, etc. Donc, on doit faire avec le droit de veto, parce que sinon, il n'y a rien. L'ONU, c'est facile de le critiquer, mais je dirais que c'est comme la démocratie pour Churchill. C'est le meilleur, c'est le pire des systèmes, à exclusion de tous les autres. Sans l'ONU, le monde n'irait pas mieux. Il irait plus mal. Il faut chercher à l'améliorer. Donc, ça irait un peu mieux avec Antonio Guterres, qui va plus, je dirais, mouiller le maillot pour prendre la parabole sportive. Mais en même temps, c'est pas lui qui dirige l'ONU. Il y a des blocages au Conseil de sécurité. Et c'est là où, si les choses sur certains points vont mieux entre Washington et Moscou, peut-être qu'on pourra trouver plus d'accords sur certains points, même si ça risque d'aller beaucoup plus mal entre Pékin et Washington, à l'inverse, et sur d'autres dossiers.
J'aurais voulu poser une question pour revenir sur la question de la France. La France et l'Europe, voilà, on aura dans quelques mois un nouveau président de la République. Pour vous, finalement, quelle est un peu la priorité qu'il faudrait développer des initiatives à prendre un peu dans un calendrier diplomatique, quelle serait un peu la hiérarchie des priorités en disant, voilà, la France, dans les mois qui viennent, eh bien, ça serait bien qu'elle essaye de faire avancer tel ou tel dossier.
Ben, pendant très longtemps, on a dit l'Europe, c'est la paix, etc. Mais si j'ai ça à mes étudiants, ils vont dire, bah oui, mais c'est aussi naturel que d'avoir l'électricité à la maison. Pour eux, ils vivent en paix depuis tout le temps. Donc, il faut trouver un nouveau récit européen qui convainque les gens de l'utilité de l'Europe. Et pour l'instant, on a plutôt vu des mauvaises nouvelles qui arrivaient du fait de l'Europe plutôt que des bonnes nouvelles. Donc il faut montrer aux gens que l'Europe leur est utile. On l'a pas fait sur le chômage, on l'a pas fait sur l'économie. Si vraiment l'Europe était sérieuse pour lutter contre les paradis fiscaux, contre la fraude fiscale, les gens auraient une autre vision. Ce qui se passe avec l'Irlande, le bras de fer, je trouve qu'on a fait une erreur magistrale de donner un plan de sauvetage à l'Irlande sans exiger d'abord qu'il y ait une réforme de la fiscalité irlandaise qui est injuste par rapport aux autres pays européens. Donc il faut montrer que l'Europe, la France devrait, enfin le nouveau président français, montrer que l'Europe peut apporter quelque chose dans la vie quotidienne et qu'elle peut effectivement imposer aux autres, protéger. La BNP a été condamnée à 13 milliards d'amendes par les États-Unis. Ben, il faut que l'on puisse imposer Google, le GAFA, etc. Montrer, prendre quelques mesures qui montrent aux Européens que, effectivement, si la France veut attaquer seule Google, ça ne va pas marcher, mais si c'est l'Union Européenne, là, ça peut avoir un autre poids, etc. Donc, il faut retrouver un récit européen, relancer le moteur franco-allemand, même si à lui seul, il n'est plus suffisamment puissant pour faire avancer une Europe à 27, et faire un peu une pause, mis à part la Serbie, parce qu'il est injuste d'avoir pris la Croatie, de ne pas avoir pris la Serbie, faire une pause dans les élargissements, puisque là, il y a un besoin un peu de faire une pause. Mais je crois qu'il faut donc montrer aux citoyens ce que l'Europe peut leur apporter dans leur quotidien. Il y a finalement un espace pour l'instant, mais ceux qui profitent de l'Europe, c'est les étudiants Erasmus, mais si vous êtes ouvrier, Erasmus, ça ne vous apporte pas grand-chose. Et on voit bien d'ailleurs dans tous les votes, sondages, l'adhésion à l'idée européenne monte avec la catégorie socio-professionnelle.
Douglas Herbert, sur ce point-là, non, sur les priorités, qu'est-ce qui vous semblerait ?
Bon, priorité, c'est difficile à dire, mais je dirais plus largement, en tant qu'Américain, et tout le monde le remarque ici en France, c'est toujours un pays très monarchique, en fait, dans le sens que moi j'ai...
Monarchique.
En fait, dans le sens où moi j'ai double nationalité, américano-britannique. Et quoique moi j'ai dû prêter serment à l'allégeance à la reine d'Angleterre pour avoir mon passeport britannique, j'ai parfois l'impression qu'elle est... Il y a plus un monarque ici, au même titre qu'en Angleterre. Et ce qui est fascinant, c'est toujours ce décalage et la manière de je sais pas de comment expliquer, entre le président et le premier ministre et comment ils jouent chacun leur rôle. Je pense que l'avenir pour la France, et peut-être pas que pour la France, mais j'ai vu une montée en puissance ces derniers temps. Au niveau, et bien sûr c'est au niveau des jeunes en France, des initiatives citoyennes. C'est-à-dire ne plus vraiment se fier aux hommes politiques, à la classe politique, même des gens qui pourraient être brillants et ont une bonne éducation politique et ils ont toutes les bonnes réponses, mais vraiment donner plus de parole aux citoyens. Je sais que ça, c'est peut-être encore une idée reçue un peu... ce qui a l'air un peu de gauche, écolo, vert, quoi, ce que vous voulez dire, mais j'ai assisté à pas mal de ces conférences, de ces forums, où le partage d'idées qui se fait de plus en plus, c'est vraiment incroyable. Et pour moi, c'est ce qui épanouit une société. Plus que jamais, j'ai vu un film l'année dernière, peut-être beaucoup de vous ont vu le même film, c'était Demain. Demain qui a proposé, qui a fait un mouche dans le vessie. C'était vraiment des solutions à des questions que tout le monde se pose. Et je pense que c'est vraiment ça. Au lieu de penser peut-être en des catégories traditionnelles et toujours en termes de un homme, une femme politique qui doit résoudre ce problème-là, il faut qu'il y ait plus de ce genre d'initiative d'en bas. Et je ne parle pas de révolution, ce n'est pas ça, ce n'est pas une idée révolutionnaire, c'est juste d'impliquer plus les citoyens dans une société. Et je pense que en cette époque ici, surtout à cette époque, ça va être plus important que jamais que le public, les citoyens et tout le monde soient vraiment impliqués dans le gouvernement, se sentent liés, connectés, en rapport avec leurs dirigeants. On a besoin de dirigeants, bien sûr, on ne peut pas se débarrasser de la classe politique. Je ne veux pas proposer ça, et si je donne cette impression, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faut qu'il y ait plus d'équilibre entre cette dynamique-là.
On va terminer par deux dernières questions. Alors, il y a beaucoup de questions, alors trois, parce qu'on est très généreux. Alors d'abord, au milieu, levez la main, monsieur, voilà, pour qu'on vous voit bien. J'ai bien noté, allez-y. Prenez le micro.
L'Organisation mondiale du commerce a accordé récemment à la Chine le statut d'économie de marché. L'Union européenne vient de refuser ce statut à la Chine. Cette divergence montre que la montée en puissance de la Chine constitue un enjeu considérable à la fois pour l'Europe et pour la France. Comment l'Europe et la France doivent-elles traiter cet enjeu ? Et question liée derrière tout cela, il y a évidemment le problème de la mondialisation. Les positions très contradictoires d'Obama, de Trump, sur la grande négociation transatlantique, commerciale transatlantique, et les positions antagonistes en Europe montrent que là aussi, il y a un enjeu considérable pour les deux, l'Europe et la France. Comment voyez-vous le traitement de ce deuxième enjeu, mondialisation, parallèle au premier ?
Merci. Alors, il y a une autre question devant, et puis je crois qu'il y en a une troisième derrière, voilà. Et on en restera là.
Un peu plus vite, puisque ma question rejoignait un peu celle de monsieur à l'instant.
Parlez bien dans le micro, oui.
En m'appuyant sur le thème de cette conférence, comment voyez-vous l'évolution des relations sino-françaises et Chine et Europe à l'heure où tout le monde dit que dans l'avenir, la Chine prend plus d'ampleur sur la scène internationale, mais en filigrane, avec les avoirs américains, je crois qu'elle possède, avec les parts de marché économique qu'elle conquiert en Afrique, les terres arables qu'elle achète, enfin, voilà.
Très bien.
Et donc, relations
économiques. Merci beaucoup, madame. Et la toute dernière question, levez la main, madame. Voilà.
Bonsoir, messieurs. En fait, je vais faire un petit peu l'avocat du diable parce qu'on a l'impression que l'Europe est un bien incontesté. Donc, les prémices de l'Europe qu'on connaît sont difficilement critiquables. Le principe de concorde politique des peuples. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on veut inscrire dans le marbre son tournant libéral. Ça me fait penser un peu à un autre continent auquel M. Herbert appartient. Peut-être ma deuxième question rapidement. Je suis d'accord avec M. Boniface qui dit qu'il y a eu, pour moi, je pense, une hystérisation du débat intellectuel autour des attentats. Il n'empêche qu'on est passé à côté du traitement intellectuel en l'essentialisant, ce qui fait que ça peut rester encore un problème. Et la suite qui a été dite d'israéliser la politique française est un peu inquiétante quant au fait que le débat actuel a été... des médias mainstream, j'entends, a été avorté. Et dans ce sens, est-ce que ça ne va pas rester encore une marmite, un peu comme ce qui se passe en Israël depuis un siècle ? Je ne sais pas si j'étais comprise.
Très bien, merci. On va voir ce qu'on en a compris, en tout cas. Merci. Alors, peut-être d'abord, OMC, Chine.
OMC, Chine.
Bah, oui, la Chine sera d'ici une ou deux générations le premier PIB mondial, mais l'importance économique de la Chine ne se traduit pas par une importance stratégique encore. La Chine est très peu productrice de sécurité, très peu engagée sur les différents grands dossiers. Il faudrait qu'elle le soit un peu plus. Et positivement, pour l'instant, elle tire avantage. Elle fait un peu comme le Japon dans les années 80. On tire avantage de la mondialisation, mais on ne veut pas trop s'engager. La France a intérêt à avoir une dimension européenne dans sa relation avec la Chine. Si on veut dire quelque chose sur le commerce ou sur le Dalai Lama, il faut mieux le dire à 27 que seul, parce qu'on pèse un peu plus. Donc la montée en puissance de la Chine, c'est un fait, on ne peut pas s'y opposer. C'est un constat, la façon dont on traite avec la Chine, là, c'est un choix. Et donc, effectivement, on peut être demander plus de réciprocité sur l'ouverture des marchés, être un peu plus exigeant sur cela. Peut-être pas brutalement comme Trump semble vouloir le faire, mais en tous les cas, il y a un vrai problème de déficit commercial de l'Europe et des États-Unis à l'égard de la Chine. Donc voilà pour la Chine. Alors sur votre oui, est-ce qu'il faut israéliser la politique française en matière de terrorisme ? S'il s'agit de bien vérifier qu'il n'y a pas une bombe dans un sac, très bien. S'il s'agit justement, on voit ce que donne cela, c'est que le gouvernement est de plus en plus à droite, c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, et à ne parler que des questions de sécurité, on oublie tout le reste. Et donc ceux qui parlent d'israéliser la politique française ont un agenda qui est de ne pas critiquer Israël, parce qu'Israël est l'avant-garde dans le combat contre le terrorisme. Et on peut penser que si la question palestinienne était réglée, il y aurait moins d'incitation aussi à la violence, et que voilà. Je, je dirais, comme Thomas Friedman a écrit après la résolution 1438, enfin la résolution qui a été adoptée avec le non-veto des États-Unis, il ne faut pas laisser les amis conduire en état d'ivresse. Et là, pour l'instant, ce qu'a fait Obama, c'est qu'il a dit à Netanyahou, tu es en état d'ivresse, tu arrêtes de conduire parce que c'est dangereux, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres.
Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Voilà, l'Europe libérale, finalement, ce que j'ai entendu, finalement, on est tous d'accord sur un projet européen qui est une Europe libérale, et que c'est peut-être ça que vous reprochez ou critiquez peut-être. Je ne sais pas si...
Oui, mais la construction européenne est faite sur ces bases-là. Et quand on parle d'Europe sociale, c'est plutôt dans chaque pays qu'il doit y avoir. Donc là après, effectivement, l'idée, c'est d'amener, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, d'amener plus de régulation par l'Europe sur les fraudes, sur l'équité fiscale, etc., etc.
Voilà. En tout cas, ce que j'entends, c'est aussi l'importance de débat, l'absence de débat qu'il peut y avoir sur un certain nombre d'enjeux importants de notre vie de société. Ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on soit vraiment dans une société qui permette que s'expriment profondément les attentes des citoyens. Écoutez, nous allons rester dans les horaires habituels et je voudrais remercier en votre nom Pascal Boniface et Douglas Herbert qui nous ont, je crois, aidés un peu à regarder autrement les enjeux de notre société. Vous trouverez à la sortie des urnes où vous pourrez déposer votre libre participation aux frais. Merci de votre fidélité. Rendez-vous donc le mardi 14 février pour la prochaine soirée d'éthique publique sur l'état de la justice dans notre pays. N'oubliez pas non plus les forums du Centre Sèvres le vendredi 20 janvier si vous le souhaitez. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.